Salut à tous et bienvenue dans les Guidons de l'Info, l'émission motarde comme tous les mercredis soirs à cette même heure, en direct. Si, si, en direct, Philippe.
Non, c'est pas vrai. Non, on est en différé. Non, déjà, on a deux animateurs différés, donc.
Donc, on attend la suite de l'équipe, sauf que, Schniff, The Pat, il va pas nous rejoindre ce soir. Il a préféré garder ses microbes pour lui.
Il est
à
malade.
La maison. Salut, The Pat. Non, je sais que tu nous écoutes.
Ouais, c'est roulé en Guzzi, ça l'a rendu malade. Je le savais bien que ça pouvait faire du mal, à force.
S'il a envie de râler, il peut avoir une solution, 05 62 27 23 23, et il peut râler en direct.
Parce que moi, je sais pas s'il est malade. Peut-être qu'il est tombé en panne. Il a un Guzzi quand même, Ne l'oublions pas.
Non.
Ah, on risque de l'avoir au téléphone, là de suite.
On est quand même là pour faire une émission d'une heure, on a plein de choses à raconter. On commencera cette émission avec le billet d'humeur de Philippe.
Et oui.
Longtemps qu'on t'a pas entendu faire un
c'est vrai.
Bon billet d'humeur.
T'as dit que l'année devait être positive. Moi, positive, c'est pas vraiment ma couleur, quoi, on va dire.
Allez.
Je vais faire un effort, vous allez voir.
Donc, pas mal de petites infos, des communiqués de presse. Après ton billet d'humeur, tout à l'heure, tu nous parleras de quelque chose d'un peu plus sympathique, un peu plus ludique.
Oui, enfin. D'un créateur français, je vais en parler la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Un créateur français de moto qui crée un système qui remplace la fourche, tout bêtement, et qui permet de faire des cadres beaucoup plus légers. Enfin, je vais en parler. Surtout que ça fait quand même depuis les années 60 qu'il fait ça.
Non, dis pas trop maintenant, garde.
Non, mais
pour tout à l'heure.
Oui, on va tout garder alors. Et en fait, de ça et d'un site internet d'un créateur qui crée des motos virtuelles. C'est plutôt sympa. Et il y en a qui existent dans la réalité. C'est encore plus
marrant. Des motos virtuelles, à quoi ça sert? Nous avons un jeune homme casqué qui vient de nous rejoindre.
Alors c'est un vrai motard. Et il pleut.
C'est un vrai.
Un motard, un vrai mouillé.
Salut à toutes et à tous.
T'es venu avec un petit peu de matière ou avec juste tes gouttelettes sur le casque? On va te laisser le temps quand même de te déshabiller.
Remets-toi. Non, mais déjà, il a eu le courage de venir en moto alors qu'il pleut. Déjà, t'as la mafre, il n'y a pas plus de la journée, il pleut quand tu sors.
Rester coincé sur un rond-point alors que t'es en moto pendant 10 minutes.
Qu'est-ce que t'as fait?
C'est quand même incroyable. Alors, rien, c'est-à-dire que les gens qui tournaient autour, si tu veux, ils arrivaient à se bloquer. Enfin, tu vois le serpent qui se mord la queue?
Oui, les intellectuels.
Du coup, plus personne ne pouvait passer.
Ça s'appelle un club d'intellectuels. Il y a une ouverture tous les jours, vers 5-6 heures, à toutes les sorties de Toulouse. Là, il faut un regroupement de tous les futurs votants, d'ailleurs, parce que tous ces gens-là vont voter, je vous rassure. Et là, on comprend
arrête
bien l'intelligence française.
Langue, Philippe, arrête. Mais ceci dit, t'as pas tort. Hein. Il y a certaines choses que les automobilistes n'ont pas encore compris.
Et sinon, je devais vous parler la semaine dernière d'une moto qui existe, dont le concept existe déjà. Donc, des petites nouvelles... sur une moto à hydrogène.
Hybride,
on en avait déjà parlé il y a longtemps. Et
une bombe sur roue.
Il y a des petites évolutions.
Le Zeppelin, elle s'appelle.
Donc voilà, nous avons le menu.
Et toi, tu me parles de rien?
Ah bah si, moi j'ai dit, je parlais d'infos fêlées.
Oh là là, ah ben ça tombe bien, justement, billet d'humeur et sur ce sujet-là.
Je vais parler aussi l'agenda et avec de l'info des dreameuses. Vous en saurez plus tout à l'heure.
Des rêveuses?
Mais en attendant, des rêveuses et des dreameuses. On te laisse la parole, Philippe. Billet d'humeur.
Voilà. Alors, je suis peut-être pas le seul à avoir regardé la télé ce début de semaine. J'ai même regardé une chaîne pour laquelle j'ai généralement un peu d'urticaire et un candidat pour lequel je suis qui est vraiment mon favori, qui parlait certainement devant tous les Français, puisque tout le monde était considéré. Eh bien, tous les Français, les motards n'étaient pas représentés. Je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont regardé cette émission-là. Donc.
C'était quelle émission?
C'était sur la Une, il y avait...
On est censé représenter 1 à 2% de la population, non? Quand
c'est déjà pas mal.
Donc on aurait dû avoir sur les 100 personnes,
on représente une. Voilà.
Une personne.
Voilà, au moins une personne qui pose des questions sur la sécurité routière, sur le concept de répression. Alors là, à part des hystériques du tout sécuritaire, on n'avait rien.
C'est donc bien cette émission sans question par... sans question.
Ouais, sans question pour 5 couillons. Et... la semaine prochaine, je vous rassure, c'est un qui est encore plus à droite qu'on va avoir. Donc, je pense qu'on va bien rire aussi. Cela étant, moi, j'apprécierais que tous ces candidats, puisqu'ils passent devant les Français, nous sommes des Français, que la Fédé propose, par exemple, puisqu'on représente quand même quelques motards, on va dire, propose qu'un interlocuteur privilégié vienne poser au moins une question sur les volontés de ces gens-là qui veulent quand même nous commander, nous diriger et régir notre vie, sur ce qu'ils comptent faire pour la moto et pour le deux roues en général. Alors, ce que je trouve assez aberrant, c'est que on représente 2% de la population française. On va voter tous, pour la plupart. On est tous assez citoyens et assez militants pour la plupart. Donc, je compte trouve assez bizarre que personne n'ait trouvé bien de nous demander notre avis, quoi. Mais comme d'habitude, on ne demande pas notre avis. Donc c'était un billet d'assez mauvaise humeur. Bon, tout le TF1 est assez générique pour ces choses-là. Ils aiment bien faire du démago, des questions proprettes, toujours les mêmes. D'ailleurs, vous avez vu, il n'a pas été coincé. Eh bien, de toute façon, il devait avoir les questions avant. Hein. Mais c'était un peu ça, quoi. Donc il a eu le gentil de cité, le machet, le bidu, il aime tout le monde. C'est la fête des bisounours. Je pense pas que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas été invité ni convié, mais peut-être que c'est à nous aussi, en tant que monta, de faire des mails à TF1. Je vous assure, ils les lisent de toute façon, puisqu'ils répondent. Ils répondent pas automatiquement, donc ils les lisent pour leur stipuler qu'effectivement on représente 2% de la population et qu'on aimerait bien qu'on soit représenté dans ce panel qui pose des questions à tous les candidats, puisque tous les candidats vont y passer. Ça serait assez bien de le voir télévisuellement, ce que eux ont réellement à répondre sur ces problèmes qui nous touchent à tous. Et sur cette répression que moi je trouve un peu exagérée actuellement, c'est-à-dire que considérant que le tout répression va amener le tout sécuritaire, et la sécurité supplémentaire, je suis pas vraiment convaincu non plus. L'éducation et la formation sont peut-être un meilleur système. Donc j'aimerais bien qu'on fasse ça. Donc je vais peut-être essayer de mettre une mail list sur le site de la Fédé, justement pour qu'on puisse tous répondre à TF1 pour leur dire qu'on voudrait passer à la télé pour poser des questions aux candidats. On aura raté Sarkozy. Bon, oh là là.
Dommage.
Mais non, ça aurait été intéressant. Moi je suis pas partial, je veux pas non plus. Ils ont tous quelque chose à dire. Si on leur pose pas la question, ils risquent pas de nous répondre. C'est un peu le problème aussi, quoi. Bon, voilà. C'était mon billet de très bonne humeur, comme d'habitude.
Donc, avec un peu de chance, on te verra sur un plateau de TF1 d'ici quelques temps.
Là, ça m'étonnerait qu'ils me mettent à moi. Hein. À consensuel, moi je suis très peu sensuel, on va dire.
Merci Philippe pour tout ça. Et maintenant c'est l'agenda, tout de suite. Et non, je ne le dirai pas sans transition.
Ah, non, mais tu aimes bien ce mot sans transition.
J'adore.
Tu as des gimmicks. C'est ça.
Mais en tout cas, un agenda moto, c'est toute l'année, ça continue, malgré
la pluie, le vent, la neige.
D'abord, et les présidentielles.
Il n'y a pas que ça, mais on nous en parle tous les jours.
Donc moi, je vais vous parler moto, et je le rappelle pour ceux qui aiment le trial, hein, la saison n'est pas finie, la saison continue. Et le prochain trial indoor, c'est le 16 février, et c'est à Pau qu'il faut aller. C'est tout à côté, avec un superbe plateau de champions, de très bons. Et voilà, un trial indoor spectacle, et le 16 février à Pau. Ensuite, un petit coucou à The Pat, qui nous a envoyé un petit mot sur le site, notre site internet qu'il a si bien fait. Nous rappelons que le 31 mars, la bourse d'échange organisée par le Coyote Racing Team, c'est à Kansas que ça se passe. Et comme il dit si bien le The Pat, il y aura du concert, un bar, saucisses, chiffon, ferraille et peau de lapin, trois petits points, on ne sait pas pourquoi, ouais. Jusqu'au bout de la nuit. Ce sera le 31 mars et on vous en reparlera.
Je rassure tout le monde, ceux qui ne mangent pas de cochon aussi, il y aura autre chose que de la saucisse.
Il y aura des frites.
Premier juré. Non, à mon avis, il y aura du poulet.
Ceci étant, le 16 février, pour ceux qui vont pas se promener au trial ou ailleurs, il y a quand même aussi un rendez-vous important pour la Fédé 31, Dao.
Oui, ça fait quelques semaines qu'on vous le dit. Le 16 février se réunit tous les adhérents et plus de la Fédé 31, enfin l'antenne locale de la Fédération Française des Motards en Colère, qui fait son assemblée générale et qui élira sa nouvelle équipe qui fera tout le travail d'éducation, de prévention et
de communication et de protestation
si besoin.
Ouais, protestation hein.
pour l'année 2007. Et donc ce sera à Candy à partir de 20h. Enfin ce sera à 20h à Candy le 16 février.
Alors ne pourront voter que les adhérents à jour de cotisation, mais tous les motards curieux et qui veulent venir soutenir sont les bienvenus, bien entendu.
Ils peuvent devenir adhérents et voter sur le moment. Hein. Il n'y a aucun souci. Quand on dit à jour de leur cotisation, ils peuvent devenir cotisants d'entrée et voter et donner leur avis. Non, c'est important.
Donc rendez-vous à Candy vendredi 16 février à partir de 20h dans la salle commune. On se fait une pause musicale.
Et oui.
Philippe, c'est toi qui as choisi le prochain morceau ou pas? Non.
C'est toi?
Non. Mais un petit lien avec ton billet d'humeur. C'est. Ouais. J'arrive même pas à le lire, Michel.
On va t'aider.
Bravo, mon papa.
Oya Star.
Oya Star. Il se marre.
Faites de prévention. Faites des très utiles. Mais vous vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. C'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance.
Bonne chance, mon papa.
Vous êtes revenu dans les guidons de l'info. Oui, oui, l'émission de Montard complètement déjantée. Allez, soyons sérieux, sécurité routière.
Déjantée et ensuite sécurité routière. Y a-t-il un lien de cause à effet?
Non, du tout. Du tout, du tout. Ceci étant, c'est vrai qu'en France, on n'est pas très bien lotis avec les politiques et on devrait vraiment plus souvent prendre l'exemple sur nos voisins. Sur nos voisins, les Belges.
Bah oui, comme on en avait parlé il y a deux semaines. Là,
qu'est-ce qu'ils ont encore, les Belges?
Pourquoi ils sont bien lotis en Belgique, hein?
Ah oui, pourquoi d'ailleurs?
Tu te souviens, c'était Albert Ier.
Ah oui, qui est motard.
Voilà. Il s'appelle Albert. Hein, oui. Il n'est
pas motard, Sarko. Hein.
Non.
Ségolène non plus, d'ailleurs.
Non. Le pire qu'on aurait pu avoir, c'était, je crois que c'est Fabius qui fait du 125, si tu veux.
On
n'a pas le cul sorti des roses, ça.
Bon, ceci étant, j'ai reçu par mail, comme beaucoup d'ailleurs, un communiqué de presse de la FFMC. national, justement, qui nous donne l'exemple de la Belgique et qui nous montre la voie à suivre. Donc, je vous le lis simplement, hein, ce sera beaucoup plus simple. Donc, distingué il y a 2 ans à l'occasion du mondial des deux roues pour son code de conduite visant à encadrer par des règles de bon sens la pratique des circulations. Et les Belges ont fait fort. Donc, ils ont fait plein de choses par rapport à la circulation entre les fils, les motos dans les embouteillages, etc.
Ils ont réussi à faire une phrase qui est imprononçable, surtout, déjà.
Exactement. Déjà. Le Belgium Motorcycle Council, donc, qui a été primé pour son code de conduite, a encore fait des siennes, effectivement, et est à nouveau à l'honneur avec la promulgation d'un arrêté royal qui autorise, vous êtes bien assis, qui autorise le stationnement des deux roues à moteur sur les trottoirs.
Si, si, si. On dirait là, qu'ils font vraiment exprès de faire le contre-pied de la France.
Je pense qu'ils veulent nous tenter à venir en Belgique. C'est pour ça qu'ils voulaient devenir belges, Johnny Hallyday.
Je crois que si on mangeait pas aussi mal en Belgique, j'irais faire un tour là-bas.
Non, il s'est fait jeter. Il voulait devenir belge, il s'est fait jeter. C'est pour ça qu'il est en Suisse.
Ceci étant, bien entendu, condition de laisser un passage d'1,50 m pour le cheminement des piétons.
C'est logique et intelligent.
C'est tout à fait normal.
Quand tout est paramétré, il y a pas.
Ah oui, quand c'est vu comme ça, c'est très intelligent et ça aide beaucoup.
Donc en Belgique, il y a des modifications du code de la route comme ça qui viennent améliorer le quotidien du deux roues à moteur des Belges.
Mais même des piétons aussi, parce que là actuellement, le problème qu'il y a aussi, c'est les règles anarchiques. C'est-à-dire qu'on peut se garer sur n'importe quel trottoir. Effectivement, on nous dit pas trop grand-chose dans certains quartiers parce qu'il y a pas de flics qui passent, grosso modo. Mais il y a beaucoup aussi de motards qui font un peu, enfin, je me fais l'avocat du diable, qui se garent un peu n'importe comment, avec une poussette on passe plus, c'est pas super clean et super bien, quoi. Donc là, effectivement, c'est encadré, on autorise le stationnement sur les trottoirs quand on peut laisser un chemin de 1,50 m.
Et là, je suis
c'est
d'accord.
Plutôt intelligent.
Et là, je suis d'accord pour verbaliser le
exactement,
mec qui fait chier la passante.
Exactement.
Tout
parce
à
que
fait.
Les filles qui ont les poussettes, elles galèrent un peu, quoi, des fois.
À part à Paris, qui est un cas particulier, hein, c'est un petit peu la bête noire pour le motard, on n'est pas trop embêté par la verbalisation sur les trottoirs, hein, je sais pas.
Oui, mais il y a des côtés très anarchiques, justement. Il y a des endroits où c'est très anarchique, où ils se garent tous en tas. Si tu veux récupérer ta machine, il faut 20 minutes, parce que t'as deux couillons qui sont mis un devant, un derrière. C'est un peu la fête au village.
Mais bon, ceci dit, on manque aussi un petit peu d'espace pour faire ça mieux.
Je suis d'accord avec toi, mais bon, il y a aussi une règle de bonne intelligence aussi par moment, quoi. Il faut un peu
tout
s'arrêter, quoi.
En tout cas, en France, eh bien, on rame toujours encore un petit peu. Donc, l'antenne parisienne de la Fédé, eh bien, elle essaye d'aller au Turbin régulièrement. Il devait y avoir une signature d'une charte du deux roues motorisée avec la mairie de Paris. Ils attendent encore.
Mais il signera rien. Là. Il faut qu'il se fasse réaliser.
C'est la préfecture qui doit signer quelque chose.
Oui,
c'est la préfecture qui n'était pas d'accord.
Oui, et puis bon. Ils finiront rien, quoi.
Et puis c'est le préfet qui décide de laisser les camions qui prennent les motos stationnés
en double fil sur les passages piétons.
Sur les passages piétons qui gênent la circulation des voitures et des piétons et qui en plus restent allumés.
C'est pour que ça consomme moins. Bon, cela
donc,
étant,
t'imagines un peu le taux de pollution. Enfin bon, c'est
du délire. Non,
mais
ça consomme pas un camion, ça pollue pas. Tu le savais pas, toi, c'est tout. Toi, on te l'avait pas dit. Il marche à l'eau. Et je crois que le pompiste, non, il n'y en a pas. En fait, le mécano et le chauffeur pissent dans le réservoir. Tu ne le savais pas, c'est tout. Non, mais nous, on n'est pas trop intelligents, on ne savait pas tout ça.
Voilà, c'est du grand délire, carrément. En tout cas, l'exemple belge à suivre, hein, et comme d'habitude,
ils sont forts pour
plus malins que nous.
Même pour la customisation et ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui sont autorisées en Belgique, qui sont interdites en France. Là-bas, dès que tu respectes un peu des règles, et les règles d'homologation, tu peux homologuer un peu n'importe quoi, quoi. Tu fais ta voiture toi-même ou ta moto toi-même, tu as le droit de l'homologuer du moment que tu respectes les règles de construction
sécurité.
Et de sécurité en construction. C'est un peu comme pour l'Angleterre. Et c'est vrai qu'on voit des machines. Alors généralement, les gens qui roulent avec des customs, ils les bichonnent, ils les adorent et ils roulent pas. C'est pas des fous de vitesse, on va dire. Mais ils ont le droit de rouler. Alors qu'en France, dès qu'on a changé l'angle de colonne de direction, par exemple, on est hors la loi et c'est fini, on n'est plus assuré. Ce qui est quand même stupide, c'est pas forcément ces jeunes-là qui vont aller s'y mettre forcément et faire les fous et les cadors. C'est juste parce qu'ils veulent de belles machines et les transformer et avoir de belles machines. C'est vrai que le système belge et anglais pour ça est beaucoup plus intelligent. En voiture aussi d'ailleurs, on a le droit de rouler avec des hot rods, ce qui permet aussi de rouler avec des vieilles voitures, de vieilles motos, sans avoir tous les problèmes que nous avons en France pour utiliser ces vieilles machines.
Une autre ânerie aussi bien française. En même temps, c'est pas une ânerie puisque légalement, c'est pas comme ça. Enfin, c'est autorisé de cette manière-là. On vous avait parlé très souvent de la petite boîte qui fait des flashs sur les routes.
Les photos automatiques.
Les photos automatiques.
Qu'il faut même payer pour avoir une photo.
Ouais, le télématon à motard.
Télématon à motard, voilà.
Oh, c'est plus le télématon à automobiliste qu'à motard.
Oh, à tout le monde.
Tu sais, quand tu te fais flasher par l'arrière, c'est...
Ça marche aussi.
Ça marche aussi, hein.
Ça marche aussi, mais bon, on est quand
les
même...
Les deux sont valides.
Enfin bon, bref, toujours est-il que vous n'êtes pas sans savoir que pas mal de routes maintenant vont être gérées par les départements, enfin, ou par les régions. C'est-à-dire que l'État ne payera plus rien du tout pour
l'entretien.
Pour l'entretien, d'accord. Mmh. Et toutes les routes, alors je crois que c'est dans l'Aude, dans le 11, là, il n'y a plus aucune route qui n'est gérée par le département et ils ont je ne sais pas combien de bois-boîtes sur leur département.
Et ben ça va servir à rentrer de l'argent pour les entretenir.
Aucun sou. Il n'y a pas un seul sou, pardon, qui ne rentre dans les caisses de la région.
Oui, c'est alors, ce qu'ils veulent d'ailleurs. Ils veulent faire.
Ils ont eu l'idée justement de demander ça à l'État. Alors,
de taxer, oui.
Le ministère de l'Équipement a dit pas question. Enfin, il n'y a aucune raison de manière assez hautaine. Ils sont passés en justice. Ils ont été. Ils n'ont pas gagné, voilà. Donc, mais ça me paraît complètement hallucinant, si tu veux. Et pourquoi ne pas permettre à la région de prendre une partie et encore et demander que 30 000 euros sur les 300 000 à 400 000 que gagne l'État,
oui.
Sur l'ensemble de la France, bien sûr.
Alors je ferai un peu l'avocat du diable dans ce cas-là.
Alors, pour justement permettre d'améliorer les infrastructures et...
on ne peut pas financer sur de la répression et sur des gens qui sont délinquants. C'est pas ces gens-là qui financent l'entretien d'une route. Ça paraît illogique aussi, quoi. C'est-à-dire, il faudrait que
je t'arrête de suite. L'argent des radars, il faut qu'il serve à quelque chose d'intelligent.
Mais on peut pas.
Donc, à quoi veux-tu qu'il serve d'autre?
Non, mais on peut pas.
En France, il y a une chose qui existe depuis toujours, c'est que on ne peut pas sur une rentrée dans les caisses de l'État, on ne peut pas définir que telle somme va aller à telle chose.
Voilà, c'est-à-dire
que
c'est interdit.
L'ensemble des caisses fait une somme globale et l'État ensuite décide où il alloue
de répartir
l'argent.
Et c'est ça qui fait toute la politique d'un pays et le choix, si tu veux, si l'État décide, fait le choix de donner de l'argent à la retraite ou je sais pas à quoi d'autre, c'est un choix politique.
Voilà. Ça permet aussi d'éviter des incohérences d'un département à l'autre aussi. Parce que si on commence à faire ça, s'il y a des départements, cet argent-là, ils vont l'utiliser pour faire des routes, on va dire. Et il y a des départements, mais parce qu'il y a moins de gens qui passent et donc moins de gens qui sont flashés, ben les routes, on les entretient plus non plus.
Mais le problème, si tu veux, c'est que là, il n'y aura pas une politique commune de sécurité routière,
oui,
de toute façon. Donc c'est aussi problématique. C'est pas la meilleure méthode.
D'entretien, pas de sécurité, mais d'entretien du.
Il n'y a pas que l'entretien. Je veux dire, rajouter des rambardes de sécurité.
Il ne le faisait pas avant.
Ouais, l'État ne le faisait pas avant.
Voilà. Donc il n'y a pas de risque qu'on en ait plus, c'est sûr.
Donc, enfin bon, il y a trop de soucis dans cette méthode-là. Voilà. Bon. Donc ça, c'était un point. Et l'autre point, alors là, ça concerne pas ni les administrations ni les politiques. Ça concerne en fait chacun d'entre nous. Pour peu qu'on partage l'idée de la liberté d'expression en moto, on va dire, que ce soit
liberté d'expression tout court, d'ailleurs.
Non, mais en moto, parce que ça nous concerne en moto. Tu parlais tout à l'heure de liberté de modifier sa moto comme on le souhaite, etc. Ben, ça en fait partie. Sauf que c'est axé là vraiment sur les 100 chevaux. Mmh. Puisque ça touche un point de la loi qui est très précis, qui est la modification des caractéristiques techniques de la moto.
Oui.
Donc, c'est le seul moyen que la FFMC utilise aujourd'hui pour essayer de modifier la limitation des 100 chevaux. Mm-hmm. C'est ce point juridique et technique qu'est la limitation des 100 chevaux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font un appel à la mobilisation citoyenne motarde. Et même les autres peuvent très bien participer. Oui. Puisqu'il s'agit, d'aller sur le site soit de motomag.com, soit de la FFMC. D'imprimer une copie d'une plainte qui sera destinée à l'Europe, comme quoi la France ne respecte pas la libre circulation des biens. Tu vois, en gros, l'idée c'est que quand tu achètes une moto en Suisse qui est à 120 chevaux, à 120 chevaux, tu peux pas venir rouler avec en France.
Tout à fait. Et vice versa.
Et vice versa, voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est d'attaquer sur cette voie-là. Bon, ça portera ses fruits ou non, je n'en sais rien.
Oui, c'est surtout aussi pour dire qu'en fait on est le seul îlot en Europe où l'homologation homologation 100 chevaux existe, qui est une bride volontaire sur les moteurs et sur les véhicules, qui n'a pas vraiment de lieu d'être, puisque les constructeurs ne conçoivent pas de motos en 100 chevaux, il faut le savoir. Il n'y a aucun constructeur qui fabrique des motos spéciales 100 chevaux. Donc elles sont toutes, soit en plus, soit en moins, peu importe d'ailleurs. Mais elles sont toutes conçues en plus, elles sont bridées par la suite, donc l'efficacité de la moto et la tenue de route et tout n'est pas à revoir, quoi. On est le seul pays d'Europe à faire comme ça. C'est comme si on disait que les Ferrari, on devait les arrêter en France et les brider à 200 chevaux. On ne le fait pas.
Et un autre point aussi, si tu veux, c'est que en France, on est ancré dans l'idée, enfin les politiques en tout cas, sont ancrés dans l'idée que chevaux est synonyme de vitesse et donc d'accident.
Oui.
Et ça, ça fait des années qu'on le répète. Il n'y a aucun lien, et ça, ça a été étudié et réétudié par plusieurs sociétés, plusieurs entités de recherche, dont l'INRETS. Il n'y a aucun lien entre la puissance d'une machine et le taux d'accident.
Voilà. Exactement. C'est un comportement plus qu'une puissance.
Absolument, c'est un comportement.
Puis de toute façon, la puissance ne veut pas dire forcément vitesse. Il y a des motos qui sont très puissantes.
Et qui ne vont pas vite.
Et qui ne vont pas vraiment vite parce qu'elles accélèrent un peu plus fort, ou qu'elles sont très lourdes, ou qu'elles ont d'autres capacités, et qu'elles ont plus d'agrément en étant avec plus de puissance. Sachant que nous, notre puissance est mesurée à la roue, et que grosso modo, ça aide pas mal. Mais c'est vrai que les motos, il y en a beaucoup qui sont calculées pour avoir un peu plus de chevaux que les 100 chevaux à la roue.
Voilà. Et donc, si vous voulez, si vous êtes intéressé par ça, si vraiment c'est un sujet qui vous touche, donc je vous dis, allez sur le site de la FFMC ou de Motomag, motomag.com, où vous pourrez donc trouver des liens pour télécharger cette lettre qui sera envoyée à l'adresse indiquée de toute façon. Voilà pour mes infos.
Pause musicale ?
Eh oui. Allez, c'est les têtes raides. Qu'est-ce qu'on se fait chier ? Oui.
Qu'est-ce qu'on se fait chier?
Ouais.
Le monde est trop petit.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde?
Ouais.
J'ai plus d'appétit.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on est con?
Ouais.
Quand on est con, on est.
Ouais.
On est content.
Ouais.
Tant qu'on est content, on est.
Ouais.
Ouais. Alors on se gratouille.
Ouais.
On se tripatouille.
Ouais.
On se fout du car, car, car. On est des fainards.
Ouais. Pardon, j'en prends au couplet d'avant.
Qu'est-ce qu'on se fait chier?
Ouais.
Et les autres?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde?
Et qu'est-ce qu'on fait chier?
C'est déjà ça de pris.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on est con?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on?
Ouais.
On est vivant.
Ouais.
Tant qu'on est vivant, on est.
Ouais, ouais.
Alors on se bourbonne.
Ouais.
Dans nos saxophones.
Ouais.
Franco. Stop. Encore.
Il bah, y avait quoi dans leur thé là?
Non, pas encore. Là, encore. C'est fini.
Ils ont fumé quoi les mecs là?
Je sais pas.
À jouer les Indiens là.
Ils sont bretons. Arrête.
Ils boivent, pardon.
Oh, bel esprit. Voilà. Alors après, on va dire que c'est moi qui suis sectaire.
T'es, j'ai vécu 10 ans là-bas.
C'est
je
vrai
sais de quoi je parle.
Ah, c'est ça alors, la coupe rose. Et oui.
Qui c'est qui veut prendre la parole?
Bah, c'est Dao et sa moto électrique.
Encore moi?
Non, ou tu veux que je parle
Non, mais ça va, moi je peux parler.
Bon, je parle beaucoup. Donc.
J'ai pas d'eau, mais j'aurai bientôt la voix sèche. Alors, on vous avait parlé d'un petit engin un peu particulier il y a, je sais pas moi, plusieurs mois, quand, à l'époque où notre Lolo était encore là. Une moto, alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que ça date. C'est une moto hybride qui fonctionne en fait avec des cellules hydrogène et une batterie.
Des cellules hydrogène?
Oui, c'est une cellule, si tu veux, à hydrogène.
Ah, d'accord, excuse-moi. Voilà.
C'est une cellule, en gros, c'est une espèce de valisette dans laquelle il y a plusieurs plaques, comment dire, de... Alors, c'est
l'électrolyte,
le matériau où se fait l'électrolyte. Et il y a une partie qui est compartimentée pour contenir l'hydrogène.
On le contient comment, en fait, si c'est pas indiscret?
En pression.
En pression.
Ouais,
je... Non, je sais pas, parce que j'ai liquide vu des, j'ai vu d'autres versions avec de la poudre.
Ah oui, non, là, non, c'est en liquide. D'ailleurs, tu as, enfin bon, bref. Donc voilà. Donc, la moto, c'est quoi? C'est une petite bécane qui, allez, ils disent qu'elle fait 8 chevaux à peu près.
Ah, un avion. Un avion de chasse.
8 chevaux, ça fait, en gros, 6 kilowatts au niveau du moteur électrique.
Ah, ça tue.
Mais, il faut savoir que la source à hydrogène, elle ne produit qu'en fait 1 kilowatt. Que 1 kilowatt.
Ah, ça va être dur alors. Il va souffrir.
D'accord. Donc ça, je l'ai remarqué en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, tu fonctionnes quand même beaucoup sur ta batterie.
Oui, oui.
Et un petit peu sur.
Sur la pile combustible.
Sur, voilà. Oui. Alors, une moto 8 chevaux qui est très petite. Elle a deux roues en fait. De dos, on dirait presque un.
Ah, deux roues, ça tombe bien.
Un gros vélo. Un gros vélo avec des roues un peu plus épaisses.
Ils auraient inventé le scooter de Solex.
Avec un guidon de mobilette type trail.
Ouais, vieille bleue quoi. Ils auraient inventé la vieille bleue alors en fait. D'accord.
C'est un peu ça. Sauf qu'elle a un design, si tu veux, un look un peu futuriste parce que.
Ouais, la Stark.
Parce que tout est profilé. Ouais. Et voilà. Elle ressemblerait presque à une mobilette de course, tu vois.
Ah ouais.
Sauf que t'as pas des bracelets des guidons, mais t'as un guidon plutôt trail. Alors, cette petite moto, elle est quand même capable d'aller jusqu'à 80 km/h.
Ah, quand même.
Ouais. Elle a une autonomie de 160 km. 160 km.
C'est bien. Ça commence à devenir intéressant.
Voilà. Mais alors, je ne sais pas. Alors, c'est là qui sont vaches. C'est que j'ai pas réussi à trouver si c'était 160 km avec...
L'hydrogène.
L'hydrogène et...
Les batteries.
Et les batteries
à
chargées.
À mon avis, oui. Ça va être l'ensemble. Cela étant, peut-être que les batteries ne sont pas rechargeables de façon indépendante et qu'on ne marche pour les recharger qu'à l'hydrogène.
Je ne pense pas quand même.
Ouais.
Ils n'ont pas été fous à ce point-là.
Ça pourrait être intéressant.
Difficile sinon. Hein. Donc voilà, donc ils ont développé en fait ces gens-là. Alors cette moto, je vais vous dire quand même comment elle s'appelle. Elle a été fabriquée par une société qui s'appelle Intelligent Energy et elle s'appelle ENV. ENV pour alors Environment Motorbike ou quelque chose comme ça.
Motorbike avec un V.
Non mais
ah c'est un suédois, c'est un norvégien, d'accord, excusez-moi. C'est un des d'autres enfants. Non, OK.
Bon, enfin. Bon. Et donc alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette moto? Enfin si je peux l'appeler une moto avec ce deux roues.
C'est qui les gens qui fabriquent ça? Ils sont doux ou quoi?
Alors, il me semble qu'ils sont de Norvège, mais ils se sont baladés un peu partout dans le monde entier.
Oui, pour arriver à essayer de la faire produire, oui.
Exactement. Donc, c'est quoi leur but? Ils existent. Ce prototype existe depuis 2005. Mm-hmm. Ils doivent avoir deux ou trois prototypes qu'ils essayent donc depuis 2005 de refourguer.
De faire produire.
Alors, le fait qu'elles ne soient pas produites, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça le problème.
Non, c'est que ce n'est pas une préoccupation des constructeurs.
Disons que ce n'est pas une priorité voilà, des constructeurs.
Ça, ils nous le disent sans arrêt et ça en fout un peu.
Oui, voilà. Pour l'instant, l'autre marche. Il y a suffisamment de pétrole, donc il n'y a pas de souci.
Oui.
Donc, j'ai regardé un peu leur historique. Ça fait donc deux ans qu'ils parcourent le monde entier de conférence en conférence, qu'ils gagnent des prix pas possibles sur
sur l'engineering de leur machine.
Voilà, sur les nouvelles technologies, sur le design, sur les nouveaux concepts.
Ouais, en gros, c'est quand on n'aura plus le choix et qu'on ne pourra plus faire autrement qu'on s'en servira, quoi. C'est un peu ça l'idée.
Mais ils rentrent de plus en plus. Il y a des gens importants qui prennent la tête de cette société-là, des gens qui sont réputés, si tu veux, dans les domaines de motorisation. Donc, petit à petit, ça fait son chemin. Apparemment, ça doit prendre du temps. Mais il se trouve que... Donc, je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai eu la nouvelle ce matin. Ils ont signé depuis hier ou depuis aujourd'hui, je ne sais plus, un contrat avec Suzuki.
Suzuki ?
Oui, un contrat avec Suzuki. Alors je suis incapable de vous dire si c'est pour fabriquer une moto ou si c'est pour utiliser.
Ne plus la fabriquer du tout, qu'elle n'existe plus.
Ou si c'est juste pour utiliser le concept de en fait, c'est un package depuis la combustible que tu peux enlever et remettre. Donc, tu peux avoir plusieurs packages et tu as juste à l'insérer devant la selle.
D'accord, et ça fonctionne.
Et ça fonctionne.
C'est plutôt pas con comme système, c'est vrai.
Moi, je trouve ça sympa. C'est sûr que le look est un peu spécial, mais c'est sympa.
Non, même pour un véhicule urbain et suburbain, ça serait assez pratique et assez fonctionnel, quoi.
Donc, ils ont cet accord-là. Ça peut très bien, Suzuki peut très bien l'utiliser pour, finalement, pour les voitures aussi, puisqu'ils fabriquent.
Ils fabriquent des voitures, ces gens-là, oui.
C'est une des seules marques avec Honda à fabriquer des motos et des voitures et des hors-bord et des.
Et BMW, ils font quoi ? Ils font rien.
Ils font des moteurs de bateaux ?
De bateaux, non, mais de motos, oui, et de moto, voitures aussi.
C'est vrai.
Et ils ont fait des avions. Japonais. T'étais très japonais, toi.
Oui, très.
C'est une maladie, ça.
C'est vrai. Ils font des moteurs d'avion aussi.
Oui, BMW. C'est ça ce que je te disais. C'est même historiquement leur principale fabrication d'ailleurs.
Et donc voilà, donc Suzuki, qui sait, peut-être que dans un an ou deux ans, on verra sortir des motos hybrides, sachant que Honda, tu m'as dit tout à l'heure, avait déjà sorti ça.
Non, Honda a présenté en concept bike des motos hybrides, mais avec moteur thermique là quand même, donc pas à pile à combustible. Moteur thermique, type ce que fait Toyota ou ce que fait Honda aussi, puisque eux aussi ont une voiture à moteur hybride qui fonctionne et qui marche très bien d'ailleurs. Ils ont prévu de sortir ça sur des motos. Alors, sur les concept bike, ils nous ont commencé à nous montrer des grosses motos, des machins, des trucs pas possibles. Et là, l'opération techniquement est... Pour le justifier en termes d'échelle, c'est pas vraiment faisable. Par contre, là, ils ont sorti, c'est à Tokyo récemment, un concept bike qui est très très proche de la fabrication, qui est très très proche de ce qu'on pourrait voir dans la rue, d'un 50 cm cube hybride, donc avec batterie, qui est entièrement électrique par contre, donc il a commande électrique, fonctionnement électrique, et le moteur thermique sert pour recharger les batteries. Uniquement, donc en fait il tourne à un régime constant, ce qui permet aussi de ne pas avoir tous les écarts de production énergétique d'un moteur, le rendement maximum, en fait tout ce qu'on veut avec, et il tourne sur ses batteries quand il est en centre-ville et il ne fonctionne qu'en électrique dans ces conditions-là. C'est un véhicule qui par contre, vu qu'il a que deux batteries lithium, coûterait moins cher à fabriquer, donc pourrait être vendable. Les collectivités pourraient aussi, un peu comme ce qui s'est passé à La Rochelle où ils avaient rentré beaucoup de véhicules électriques de chez Peugeot à l'époque, de chez PGO, les mettre en location et avoir ce type de véhicule pour circuler dans les villes touristiques en location à des prix raisonnables pour ne pas polluer. Ce serait peut-être une solution. Si les politiques s'y mettent, ça fera peut-être avancer les choses, c'est sûr.
Voilà, et bon, faut compter, à mon avis, encore 10 ans pour que les mentalités aillent dans ce sens-là. Hein.
Si tout le monde veut vraiment, et si les gens commencent à dire que oui, on veut ce genre de produit, il va pas falloir 10 ans. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment motivés.
Pour la voiture hybride, c'est pas les gens qui poussent à avoir des voitures.
Aux États-Unis, si. Hein. Aux États-Unis, c'est la demande qui fait l'offre là maintenant.
Alors là, j'ai le prix donc pour la petite moto dont je te parle. Là, elle coûte. Alors il y a deux ans, elle coûtait $10,000 à la fabrication.
Quand même.
En fait, c'est le coût du prototype. Et ils évaluent en fait à $6,000, donc ça correspondrait à 4 800 euros à peu près.
Ah, il faut vraiment militant là. Quand même.
Faut être militant. Ouais,
il faut s'appeler Nicolas Hulot, quoi. Il faut avoir une émission de télé sur l'écologie pour rouler avec ça. D'accord.
Donc ça, ils ont été capables de fabriquer quand même un autre moteur. Donc là, qui doit faire 80 cm par 40 cm par 40 cm, tu vois. T'imagines une boîte comme
un
ça.
Un cube.
Un cube qui peut très bien rentrer dans une voiture et qui, lui, est capable de monter beaucoup plus haut, à 75 kW.
C'est pas mal, déjà.
75 kW, ça correspond à un moteur de, je sais pas, moi, 206.
Non, ça, 1000 cm3.
Voilà, donc ça fait du 100 chevaux quand même.
Ah oui, c'est pas loin, oui. Et en plus, c'est des 100 chevaux électriques.
Voilà.
Faut savoir que les 100 chevaux électriques, vu qu'il y a moins de pertes, sont beaucoup plus faciles à utiliser, sont plus dynamiques que sans chevaux thermiques, un moteur à piston.
Donc tu comprends pourquoi Suzuki
est intéressé. Oui, oui, mais ça devrait intéresser beaucoup de monde. C'est.
Alors je vous donne quand même l'adresse du site internet si vous voulez en savoir plus. Ça s'appelle www.intelligent-energy avec un y.com.
Merci pour ça, pour tout ça, Dao. Et avant de passer la parole à Philippe pour une description de nouvelles machines, une petite info bien française cette fois-ci, parce qu'on parle beaucoup de japonaises, d'allemandes et d'autres, et puis cocorico un peu de temps en temps.
Il se passe un truc chez les Français.
Ouais, il se passe un truc chez les Français. Non. Il se passe un truc grâce et surtout à cause de l'explosion du scooter, qui est un deux roues motorisé de plus en plus à la mode, de plus en plus utilisé par.
On se croira en Italie.
Motomobilistes, comme on dit. Mmh. Mais en tout cas, ça a fait du bien à Peugeot, hein, puisque Claude Alombert, le directeur de Peugeot Cycle, le dit lui-même, et il a super bien gazé avec le Satellis, par exemple, cette année.
Ils ont fait de très bonnes machines, cela étant, faut aussi reconnaître ce qu'il y a. Leurs machines sont quand même bien motorisées, sont quand même très agréables à conduire, sont assez économiques, et ils ont sorti une gamme qui est assez cohérente. Donc effectivement, ça se vend. Hein.
C'est, tout à fait.
C'est assez simplement,
en chiffres, rapidement, par rapport à l'an dernier, concernant l'immatriculation des 125 cm3, ils ont augmenté de 31% la vente. Pour ce qui est des 120, d'un certain 125, c'est pratiquement le double.
Bah, c'est-à-dire que leur moteur à compresseur, qui est quand même l'une des parties, est quand même très très agréable pour un 125.
Et le marché des 50, alors il a complètement explosé, plus de 25% en 2006 en France et presque 8% en Europe, en sachant que la marque Peugeot termine dans ce cas-là en première position avec 27% du marché.
Européen ?
Oui.
C'est énorme.
Donc bravo à Peugeot.
C'est super. C'est-à-dire qu'en France, c'est un peu normal sur les 50, puisqu'on perd tous nos points et donc nos permis. On a les 50.
Affaire à suivre. Et tu as une petite description à nous donner avant la fin d'émission. Et on passera le morceau de musique avant ou après peut-être.
Comme
Philippe.
Tu veux, comme vous le sentez.
Le petit morceau de musique et après.
Ouais, on va faire d'abord le morceau de musique parce que ça va être assez long quand même.
Donc on va se retrouver avec Lâche l'affaire de Erwan.
J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, j'en fais la rade. À la ramasse, le type a surgi dans la place. Sur un scooter façon Mad Max, puis il s'est approché de moi. Mon mal regard, je le sentais pas. T'as le trois quarts, ma caille, c'est pour l'iscaille. Moi je me les gèle sur mon booster, avec ça je serai un vrai rappeur. Alors ma gueule, tu la ramènes, je vais t'apprendre à jouer à Tekken. File-moi ton cuir, je suis trop vénère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a mis un look kick. J'ai esquivé, sourire, t'as enchaîné, retourné, je lui ai filé mon cuir. J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, sortais d'un rad, bouffé un grec, le type a surgi sur le boulevard. Dans un coupé, il était pas net, puis il s'est approché de moi. Combat de regard, je le sentais pas. Wesh, wesh, gosse beau, t'as sorti le fut à la cigale, c'est trop de la balle. Regarde comme il craint mon baggy, avec le tien je serai un vrai MC. Viens faire un tour dans ma merco, je vais t'apprendre ce que c'est qu'un braco. Tu sais je suis croque de ton streetwear, moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a fait une balayette, je lui ai mis un frontal. T'as enchaîné coup de tête, je lui ai filé mon futal. J'étais à la fraîche, je me faisais zizir, je buvais ma Rubik's dans le RER. Les lascars ont surgi dans le wagon, ils étaient 15, c'était pas bon. Puis le stockma s'approche de moi, combat de regard, je le sentais pas. Matt Lucky Dam, il a les Air Max à Jordan. Alors Blanc-Bec, t'aimes le basket? Bah on va wesh à ma façon, je vais juste un peu changer les règles. On est les joueurs, toi t'es le ballon, file-nous tes pompes, enculé de ta mère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. M'ont mis deux trois que là, j'ai fait ah ouais les mecs, m'ont sorti un pushka, j'ai filé mes baskets. La morale de cette pauvre histoire, c'est que quand t'es tranquille et peinard, il faut mieux rester dans les bars, surtout quand tu commences à boire. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil en chaussette, pour avoir l'imagination, pour inventer un bon remake.
Ça ça, c'est de la reprise comme on les aime.
Ben, il le fait bien, ce Erwan, dis donc.
Plutôt bien, ouais.
Ah ouais, il reprend bien, et puis c'est même mieux que ce que fait Renaud actuellement.
Hein. Bon, ça progresse. La remarque méchante.
Ça va.
Bon, et ta nouvelle moto, là, que ça fait 3 émissions que tu veux nous en parler. Donc,
elle n'est pas nouvelle. Alors, en fait, le principe, mince. Il sort toujours pas de moto, c'est ce pauvre garçon. Alors, en fait, je voulais vous parler de Jean-Bertrand Bruno, qui est un inventeur français, dentiste de son état.
Jean-Bertrand, c'est français, ça ?
Jean-Bertrand, oui, c'est français. C'est même, ancienne France, même, hein, on va dire. Oui, en fait, son gros leitmotiv depuis les années 70, c'est de supprimer la fourche des motos. Parce qu'effectivement, il n'a pas forcément tort, c'était pas un élément.
Oui, non, j'imagine la roue, si tu veux, 500 mètres devant, ça, et toi, c'est derrière, non, sans c'est fourche.
Quand tu travailles dans un cirque, oui, tu n'as plus que la roue arrière.
T'es monocycle.
C'est monocycle à moteur. C'est déjà essayé, c'est très très casse-gueule. C'est vraiment, même avec un bon sens de l'équilibre, c'est ultra casse-gueule. Non, là, lui, en fait, ce qu'il est, il est parti du postulat que, grosso modo, les voitures utilisent un système qui est proche du MacPherson, c'est-à-dire un bras inférieur, un bras supérieur. Ce qui permet d'avoir des bras et des guidés, c'est-à-dire que la direction et la fonction de direction est décentrée par rapport à la fonction de guidage de la roue. C'est-à-dire la fonction amortissement, fonction guidage de l'amortissement ne sont pas faits avec la même fonction qu'avec la direction. Là, sur une fourche téléhydraulique, celle qu'on utilise en général, c'est les deux ensemble. Ce qui nous fait des cadres avec des colonnes de direction surnaturelles, parce que ça encaisse des contraintes énormes, et ça alourdit nos directions. On a nos angles de chasse qui sont volontairement ouverts pour que ça soit stable, on n'a pas trop le choix, et pour des raisons techniques aussi d'anti-plonger quand on freine. Voilà. Donc, lui, il est parti de ce postulat-là. Alors, il y a d'autres concepteurs qui ont travaillé sur ça, tous à peu près dans la même période, tous plus ou moins français d'ailleurs, beaucoup de français. On peut parler de Claude Fior, je ferai certainement d'ailleurs un article sur Claude Fior, parce que c'est quelqu'un de très important dans le milieu de la moto, qui lui aussi travaillait sur un concept qui était un peu similaire. Et ThePad nous avait parlé il y a quelques semaines de ça, du Tessie de chez Bimota. C'est un peu le même principe que le Tessie. Mais à part que lui, la grosse invention, c'est qu'il a vraiment dissocié le bras inférieur, le bras d'amortissement et la direction. Et il n'a pas utilisé des rotules comme sur le système italien. Les rotules étant très chères à fabriquer, ça revient à un système, une rotule centrale au milieu de la roue revient très chère à fabriquer parce que c'est une pièce assez complexe. Là, c'est pas fait avec ça, c'est fait avec un bras de guidage circulaire. Son système est plutôt intelligent, marche plutôt bien. Doit être plutôt efficace puisqu'il a quand même fini sixième au bol d'or avec une machine équipée comme ça, qui était pas une machine d'usine.
Et il a roulé avec, en fait.
Ah non, mais il a gagné des millions de choses. C'est surnaturel. En compétition, sa moto, elle a prouvé qu'elle pouvait être bien au-delà, et son système bien au-delà d'une fourche téléhydraulique, sans aucun problème. Il a fait du 2,5, il a fait du 125. Et alors, je vous en parle actuellement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, comme nous, ben, on l'a pas vraiment encouragé, même la moto française l'a pas vraiment encouragé, Voxan, il a vendu son système à qui, d'après vous ? Aux Chinois. Et donc, la première moto qui risque d'être équipée de ça, de ce système-là, c'est une moto chinoise 125. Alors, ils l'ont présentée à Milan, là. Effectivement, ils ont présenté cette moto-là, qui est plutôt pas vilaine pour un 125. Alors, la motorisation, je vous rassure tout de suite, c'est une copie d'un XL de chez 125 de chez Honda. Hein. Les Chinois sont très forts pour les motorisations. Il n'y a pas de problème, ils font les moteurs d'il y a 20 ans ou 50 ans. Ils les font très bien. Mais par contre, le design technique de la fourche, et par contre, le sien, c'est son système et son concept à lui, ce qui permet quand même d'avoir un angle une direction beaucoup plus légère, des pièces beaucoup plus facile à fabriquer, donc les Chinois pourraient maîtriser assez facilement la fabrication de ce concept-là. Ça permet d'avoir un amortissement et une chasse réglable, un anti-plongée réglable, ce qui est plutôt sympa, et la direction réglable aussi.
C'est-à-dire que si jamais toi tu veux tourner à gauche mais en tournant le guidon à droite, ça va être possible.
Ouais, enfin peut-être pas à ce point-là, en plus ça n'a pas un intérêt flagrant, ce que tu me demandes.
C'est comme ça qu'on fonctionne à moto, je suis désolé, pour tourner à droite, t'appuies.
Oui, ça s'appelle le contrebraquage. Tu veux contrebraquer toujours pareil, ça change rien. La dynamique d'une moto ne change pas, elle. Si tu as toujours une route devant qui bouge.
T'es sûr qu'il faudra pas passer un autre permis pour conduire cet engin ?
Ben non. Alors en fait, il y a un client français qui en a fait faire une sur une base 996.
Eh ben.
Ouais, quand même.
On a les moyens.
Plutôt joli, plutôt réussi. Et non seulement c'était pour prouver que son système pouvait marcher même sur une machine de grande série assez facilement, et ça marche, ça fonctionne bien. Alors il paraît que à conduire ces motos-là sont très déroutantes parce qu'elles sont très faciles, parce qu'elles absorbent, elles excusent beaucoup de choses. Et comme l'amortissement est mieux guidé que sur une fourche, et bien en fait, c'est beaucoup plus doux et ça roule de façon plus douce.
Est-ce que tu n'as pas en moins beaucoup de sensations de la route, par exemple? Tu perds quand même certains réflexes, certaines habitudes.
Au point que nous, on est pour éviter, je te rappelle, les sensations de la route qu'on ressent tellement bien, on nous met des amortisseurs de direction parce que ça guidonne. Là, ça ne peut pas guidonner, en fait. C'est l'avantage. Le gros avantage, c'est ça, c'est que le guidonnage n'est pas possible, puisqu'on n'a pas de poids qui se, sur l'avant. On a réduit notre poids sur notre roue, donc le guidonnage est vraiment limité, quoi. Donc en fait, les sensations, au lieu d'avoir un amortisseur de direction qui empêche le guidonnage, là tu n'en as pas besoin. Le processus se passe moins, donc tu peux, les sensations sont plus douces. Et ça a été prouvé en compétition, donc moi je suis assez étonné qu'aucun constructeur mondial, voire japonais, hein, pour ne pas les citer,
ne soit pas là-dessus. C'est quoi, c'est Yunsu ou...
Alors, c'est non, c'est l'IFAM.
Donc c'est pas du
Béotien, Béotien.
Béotien, c'est pas du tout connu.
Si, c'est un Béotien, c'est un groupe, c'est un groupement de fabricants.
D'accord.
Il y a Lifan, il y en a tout un tas. C'est en Chine actuellement d'ailleurs, ils sont en train de se regrouper. Tous les, il y a beaucoup de constructeurs indépendants. Ils sont tous plus ou moins regroupés sous une même enseigne. Sur une ou plusieurs enseignes. Les Chinois et l'État chinois actuellement, un gros problème, c'est pour essayer d'avoir une norme de qualité, des normes de fabrication, des choses comme ça, parce que tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi, aussi sur les normes environnementales. Ils commencent eux aussi à avoir des gros problèmes environnementaux sur la production, parce qu'ils font les mêmes erreurs que nous on faisait au 18e, à part qu'ils les font maintenant.
Et avec plus grande échelle.
À plus grande échelle, et avec des produits beaucoup plus dangereux pour l'environnement. Sans être, il faut pas se, il faut appeler un chat un chat, quoi. Donc eux aussi sont obligés de se consacrer et se concentrer sur l'environnement parce qu'ils sont en train de se le pourrir, mais 10 fois plus vite que nous et à une échelle surnaturelle. Et le, donc tous les constructeurs voulant rester sur le territoire chinois et les Chinois pour pouvoir exister ont besoin de montrer une certaine cohérence à l'État chinois. Et donc Bébé Océan veut montrer qu'il a un pouvoir de représenter une marque internationale sur le marché international. Donc c'est pour ça qu'ils préparent une, ils ont présenté une 125, ils vont présenter d'autres cylindrés par la suite. Hein. Je pense que ces gens-là vont être assez crédibles parce qu'ils partent sur des nouvelles technologies que les autres n'ont pas fouillées, des technologies que eux peuvent maîtriser. Et assez facile parce que c'est de la tôle emboutie, leurs bras. Les bras sont très légers, c'est de la tôle emboutie. Donc c'est vraiment assez facile à concevoir et assez facile à fabriquer surtout. À concevoir, ça n'a pas été facile. À fabriquer, ça a été facile. C'est plus facile à fabriquer. Et moi, je suis assez intéressé par ce problème, par ce procédé. Regardez, la GTS, c'est une très bonne moto que Yamaha avait fabriquée avec une monoroue, enfin avec un double bras à l'avant, un peu le même principe. C'était une très bonne routière. Elle a été très appréciée. Elle avait un entretien un peu conséquent, mais c'était une machine qui était très agréable à conduire au final. Pas un succès surnaturel, mais c'était une bonne machine, quoi. Donc, je suis sûr que les motos sans fourche ont peut-être un avenir proche. Justement parce qu'en fait, effectivement, on a développé la fourche téléhydraulique par manque de savoir et enco. Parce que et maintenant, on l'a développée tellement en compétition, ce que lui disent les constructeurs, en gros, c'est qu'on a passé 15 ans à développer la fourche téléhydraulique. On va pas maintenant se mettre à reprendre un cahier vierge, recommencer à zéro et remettre 15 ans de développement sur autre chose. Alors surtout, ça, on maîtrise.
Surtout qu'ils ont trouvé l'astuce pour encore faire continuer la chose en faisant des fourches inversées.
Inversées et encore plus grosses. Et en fait, c'est surtout sur les cadres. Le problème de la fourche inversée et de la fourche téléhydraulique, c'est sur le cadre. C'est-à-dire que ça nous amène des colonnes de direction. Vous regarderez n'importe quel sportif.
Elles sont énormes.
C'est surnaturel.
Elles sont grosses, elles sont très grosses.
Et les cadres sont de plus en plus conséquents pour arriver à supporter les forces que ça représente. Là, ça permet justement de réduire ces forces, donc de réduire le poids, donc de faire des machines plus légères, donc aussi de faire des machines qui consomment moins. C'est quand même... moi, je pense que l'avenir est plutôt sur des concepts. Pourquoi ne pas essayer autre chose que continuer à faire ce qu'on sait faire, mais qui ne convient pas vraiment. Au final.
C'est comme ce que je te montrais tout à l'heure.
C'est exactement le même principe.
C'est le même souci.
On est dans le même concept de travail. C'est comme si on continuait à faire des voitures avec des ponts de Dion Bouton, quoi. On peut continuer à le faire, mais ça tient pas très bien la route. On le sait. Donc, je pense qu'il va falloir suivre ça de près. Moi, je suis assez intéressé par ce produit. Je pense que je vous en reparlerai dès que la moto sortira. Là, c'était un concept bike.
Voilà. Par contre, celui qui a fait le modèle, tu m'as dit combien, 700?
996. Sur une base 996.
Et il roule avec en France ou?
Oui, tout à fait.
Il s'appelle comment, tu peux me rappeler?
Si
t'as des infos.
Le fabricant.
Oui, voilà.
Alors, le fabricant, c'est Jean-Bertrand Bruno.
D'accord.
JBB.
Il doit avoir un site internet ou quelque chose.
J'ai pas retrouvé ça sur internet. J'ai pas eu le temps de vraiment chercher, mais je pense qu'il doit y avoir des choses. Il a fait sur 996 et 999.
Ah mais c'est lui qui l'a fait, d'accord. Je crois
il a fait l'étude pour ces machines-là et il l'a vendu. C'est des clients qui sont venus demander ça.
Et eux ne roulent avec que qu'en circuit, je suppose.
Non, ils s'assurent sur la route.
Elles sont homologuées. Elles sont homologuées route, ouais.
Il a réussi à les faire homologuer.
Ah ben, moi, je veux bien rencontrer un de ces gars-là pour les essayer.
Ah, tout à fait. Mais parce que c'est vrai qu'ils avaient présenté.
Jean-Michel,
aussi,
si tu nous entends.
Pour montrer que son concept était réalisable, il avait monté des motos de route et de GT, quoi. Il en a monté une pour montrer que son concept est tout à fait viable. Il a fait le bol d'or et il a fait sixième en bol d'or. Ça arrive pas tout seul, je vous le dis d'entrée. Donc non, son système est viable à mon avis et très intéressant, quoi. C'est pas comme le système Elf qui lui n'était en fait qu'un transfert du système du principe, c'est-à-dire que on a remplacé la fourche par un amortisseur, on a décalé le problème. Là, c'est un vrai système qui remplace le système de la fourche, quoi. C'est pas mal, c'est deux bras superposés, enfin ils sont pas superposés, ça ressemble un peu à MacPherson qu'on aurait devant. C'est un peu particulier, et la direction se fait sur une rotule. Mais c'est assez facile à fabriquer, ça a l'air tout du moins. Voilà, donc c'était donc mon coup de cœur. Il y a un très bon article qui est fait dans Café Racer, notre confrère de Café Racer, qui permet souvent de découvrir des fabricants artisanaux, des choses comme ça. L'article est très bien fait, et ça permet de découvrir un Français qui a vraiment fait beaucoup de choses pour le monde de la moto.
Merci pour tout ça, Philippe. C'était une belle histoire. Et je vais finir sur une petite histoire toute mignonne. C'est l'histoire de rêveur. Si, il y a des motards qui rêvent.
Mais tu sais, eux, ils ont tellement bien rêvé. Quand on y va à 4h du mat et qu'on fait la fête avec de la musique qui bouge, c'est sympa. Hein.
Ah, c'est ceux-là, les rêveurs.
Mais c'est des rêveurs.
C'est pas les mêmes. Mais je parle pas de ceux-là, en fait.
Ah.
Je parle de deux rêveurs qui sont partis sur un périple de 25 000 km. Sur un 125 cm3.
Non, c'est pas des rêveurs, c'est des inconscients. tu confonds, c'est un problème de sémantique. Non, mais on va recommencer.
Et ils s'appellent François, Xavier et Arnaud. Et ils ont monté une association qui s'appelle Des Rêves Plein le Monde. Alors, ils ont fait ce périple, en fait, en passant dans tous ces pays, en récupérant les rêves de chacun. C'est beau, hein.
Ils ont récupéré les rêves de
tout
chacun.
Ça pour dire.
C'est SF tout ça là.
Vas-y, oh là. Ils ont des pièges à rêve.
C'est pas que du rêve. C'est des gens qu'on peut contacter par internet. Je vais aller faire un petit tour sur leur site pour vous en dire un petit peu plus la prochaine fois. Mais ils ont décidé de mettre en place une plateforme interactive du rêve via internet, justement pour pouvoir aider et soutenir les gens qui ont un rêve. Et qui ne savent pas comment le réaliser.
Je veux nager avec des dauphins.
Voilà, comme faire 25 000 km de l'Asie à.
En rapport avec la moto ou de tout ?
En rapport avec la moto, bien entendu.
Oui, au début, je croyais que tu disais qu'ils prenaient les rêves des gens.
Oui, moi aussi, je comprenais
plus. Et qu'ils les faisaient à leur place.
Oui.
Non,
c'est pas le
but. Ça peut être
ça
aussi.
C'est qu'ils transportent des rêves d'une tête à l'autre, d'un pays à l'autre.
D'une tête à l'autre, en plus, ils font de l'implantation de rêves.
Dans notre société, ça manque beaucoup un petit peu de bonne humeur et de projets audacieux, mais qui sont simplement des projets de rapprochement humain, quoi. Simplement ça.
Ah oui, 25 000 km à 125, ça c'est un rapprochement humain, parce que le mécano, tu vas le connaître, c'est ton ami.
Sur les 25 000 km que tu vas faire, en tout cas, tu vas t'humaniser un peu plus que si tu restes assis dans ton
fauteuil à regarder une chaîne qu'on ne citera pas.
Parce que partout où ils sont passés, ils en ont profité quand même pour souligner les actions à caractère humanitaire qui se faisaient à droite à gauche. Et c'est pas que du rêve pour du rêve, quoi. Hein. Donc voilà, je vous promets d'aller faire un petit tour sur leur site. Si vous voulez déjà y aller avant moi, c'est sans difficulté. C'est sur www.desrêvespleinlemonde, comme ça se prononce, tout attaché. Vous savez écrire le français, donc c'est desrêvespleinlemonde, tout attaché.com. Et voilà, donc je vais aller voir ça de très près.
Oui.
Et j'espère que j'aurai plein de choses à vous raconter la prochaine fois.
Elle va revenir, alors plus aucun rêve parce qu'ils auront tout volé.
Motomag a suivi ces deux loustiques pendant leur périple de janvier à juillet. Et vous avez l'intégralité de leur récit sur le site de motomag.com. Nous, on se retrouve
la semaine prochaine.
Nous serons combien la semaine prochaine ?
Nous serons 4.
Nous serons le combien ? Le combien ?
Ah, le combien ? Eh bien, un peu comme aujourd'hui, avec 7 jours de plus.
Donc mercredi 13
ou le 14 ou le 15.
Bonne question.
Ne loupez pas cette émission avec, j'espère, notre grande patte nationale.
Allez,
salut à tous.